C'est un des spécialistes des agences de notation et des risques financiers qui m'en a invité dans 12-15. Jérôme Cas, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été directeur général de la COFAS. Vous êtes venu à ce micro dans ses fonctions. Et là, vous venez avec ma presque en tant qu'écrivain, mais aussi en tant que professeur HEC, justement, sur les risques financiers. Vous avez même, je crois, un projet sur la notation. Et puis là, vous publiez un thriller qui s'appelle 555, des indignés contre la spéculation bancaire. On peut même, c'est le jeudi rouge. En fait, vous nous en parlerez dans un instant parce que il y a une crise, mais peut-être après une deuxième crise, une troisième crise. Bref, on est en plein dans votre thriller, sauf que malheureusement, c'est la réalité. Jérôme Cas, juste là, lorsque vous voyez Fitch qui se dit que peut-être qu'il va dégrader la note du Fonds européen de secours, Standard & Poor's, Moody's, qui aurait pu dégrader vendredi soir le AAA de la France, etc., etc., on peut commencer à continuer pendant longtemps. Cette litanie des agences de notation, comment vous l'expliquez? Et que vous qui connaissez bien de l'intérieur ce métier, comment vous réagissez?
Ben écoutez, à une époque, on disait il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre. Je dirais aujourd'hui, il n'y a pas de signature, de bonne signature pour une agence de notation. On a donné le pouvoir un peu au café du commerce. Et en fait, on peut s'inquiéter de tout. On peut aujourd'hui s'inquiéter de l'Europe. On pourra demain s'inquiéter de la Chine. Quand on est un spécialiste des risques, on sait très bien que derrière le risque, il y a des éléments objectifs, mais il y a surtout ce qui se passe dans la tête, c'est-à-dire la confiance. À partir du moment où la confiance n'est plus là, on peut s'inquiéter absolument de tout. Mmh. Et donc moi, ce que j'essaie de dire dans mon roman, c'est que on est aujourd'hui le nez dans le guidon, plein de cette crise de l'euro, soi-disant de l'euro, mais derrière, il y en aura une autre, et derrière, encore une autre. On a bâti un système qui fonctionne par crise de plus en plus fréquente et de plus en plus violente. Mmh.
Puisque vous êtes un spécialiste de risque des entreprises, de risque des risques pays, parce que c'était le métier de la COFAS, justement, comment est-ce qu'on construit le risque d'un pays?
Mais le risque d'un pays, autrefois c'était facile, on disait, il n'y a que les pays exotiques qui ont des risques. Ouais. Et donc on regardait à quel point ils étaient exotiques, on regardait l'âge des artères du dirigeant, et on regardait l'endettement, notamment à court terme. Ouais. Aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus compliqué, parce que on a découvert qu'on pouvait avoir des risques, en fait, également dans les pays développés, parce qu'à partir du moment où on a bâti une économie de l'endettement, on se prête tous les uns aux autres. Nous devenons tous extrêmement dépendants de l'opinion des autres. Et si on a créé des instruments de marché qui fait que les opinions changent du jour au lendemain à 180 degrés, ce qui se passe aujourd'hui, tous les investisseurs de la planète, richement payés, sont en fait des presse-boutons qui un jour sont optimistes, un jour sont négatifs. Dollar, pas dollar, dollar, pas dollar. Donc à partir du moment où on a bâti ce système, n'importe quel pays peut flanquer la trouille. Mmh. Si on le regarde avec certains yeux, si brusquement en effet tout le monde a la trouille, c'est les prophéties autoréalisatrices que vous connaissez bien, si tout le monde a peur de quelque chose, tout le monde se retire en même temps, et la catastrophe se produit.
Ouais. Alors, ce qui nous frappe là, on l'a vu d'abord, c'est le premier sentiment est né, la première impression au moment de la dégradation de la note des États-Unis, où tout d'un coup, Standard & Poor's a dégradé donc la note des États-Unis, et on a le sentiment que c'était plus une dégradation politique. C'est parce que Barack Obama n'arrive pas à négocier avec son Congrès la dette des États-Unis. Bon, et accessoirement, il s'est détrompé sur quelques dizaines de milliards. Mais bon, et là, on a l'impression qu'il y a le fond de la politique, les agences de notation. Est-ce que c'est un critère nouveau à vos yeux?
Et ça a toujours été, je parle de café du commerce, parce que sur les entreprises, il y a des statistiques, il y a des instruments techniques qui permettent de valider une notation. Sur les pays, il n'y a pas assez d'événements, le statisticien ne peut rien dire. C'est donc des impressions. Et donc en effet, la notion de triple A est quelque chose de totalement symbolique. C'est une chance de tomber de vélo sur 5000 années. Double A, c'est une chance sur 200 années. Pour nous qui essayons de raisonner à quelques années, pour les marchés qui raisonnent à quelques heures, tout ceci n'a aucune importance. C'est symbolique. Il était clair qu'à partir du moment où les États-Unis étaient dégradés de leur triple A, tous les autres pays suivraient. D'une certaine manière, comment est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui les États-Unis faire faillite alors qu'ils émettent la monnaie mondiale? Oui. Ça n'a aucun sens.
Ça n'a pas changé grand-chose pour eux. Hein. Enfin, c'était symboliquement important, comme vous le dites.
Et ça ne changera pas grand-chose pour la France non plus. Nos taux d'intérêt ont déjà monté. Donc, en gros, on est en train de faire un psychodrame sur quelque chose qui s'est déjà produit.
Et pourquoi fait-on ce psychodrame, alors, Jérôme Cas?
Parce qu'on en a besoin. Parce que le moteur des marchés, c'est le psychodrame. En gros, on a baissé aujourd'hui, il faut qu'on monte demain. Et on ne gagne de l'argent que quand ça bouge. Moi, ça a été ma découverte quand j'ai découvert la banque spéculative. C'est qu'un marché qui ne bouge pas n'intéresse personne parce qu'on n'y gagne pas d'argent.
Oui, c'est ça le problème. Donc, il faut trouver un nouveau mode de financement et un nouveau fonctionnement plutôt des marchés financiers.
Il faut dire halte à la banque spéculative. D'une certaine manière, moi je dis la même chose que Occupy Wall Street, c'est-à-dire de dire la finance spéculative, c'est tout petit. C'est ce que je décris dans mon roman. Oui. Bon, on est très nombreux. Si vraiment on a envie que ça s'arrête, dans une démocratie, on doit pouvoir faire s'arrêter ce système débile.
Oui. Sur les débiles, c'est comme quoi on retrouve une certaine forme de liberté de parole là, lorsqu'on dirige plus un grand groupe. Jérôme Cazes, les agences de notation, il y en a bon une française, Fitch, et puis sinon c'est deux anglo-saxonnes. À un moment, on a connu les velléités de la COFAS, alors c'est peut-être pas simple pour vous d'en parler, mais devenir une agence de notation. En tous les cas, que ça soit Michel Barnier, Jean-Pierre Jouyet, bref, ils ont tous la volonté qu'il y ait une agence de notation européenne, un statut public, quasi-public, etc. Est-ce que ça changerait tout? Est-ce que ça changerait la donne?
Premièrement, ils ont tous la volonté, mais enfin, c'est comme à l'opéra. Vous savez, marchons, et puis on est toujours au milieu de la scène, un quart d'heure après le début de l'ère du ténor. Donc, en gros, je crois que mon projet d'agence de notation embêtait tout le monde.
Ouais.
Voilà. Bon. Deuxième élément, est-ce que ça changerait? J'en suis pas complètement sûr. À partir du moment où les trois agences fonctionnent exactement pareil, une quatrième agence...
Vous voulez dire que vous avez quitté la COFAS parce que vous vouliez une agence de notation?
Non, j'ai quitté la COFAS. D'accord. Parce que des gens pas très intéressants m'ont viré. Mais en gros, aujourd'hui, mon rêve, c'est pas de créer une quatrième agence de notation. Je pense qu'on peut améliorer le marché de l'agence de notation.
Comment?
Je crois que si on offrait des services qui notent les notateurs, on arriverait à relativiser tout ça.
Ouais.
Aujourd'hui, ça existe pour les actions. Vous avez des gens qui notent les actions. Et on sait que tel notateur est mauvais comme un cochon et tel notateur est bon.
Mais il y en a trois, donc ça veut dire que...
Oui, mais il y en a trois. C'est parce qu'on a pris le faux pas de faire la réglementation sur les agences. Il faudrait pas faire la réglementation sur les agences, mais sur les notes des agences. Standard & Poor's peut être très bon sur certaines notes et à nouveau mauvais comme un cochon sur d'autres. Tant qu'on en restera à réglementer les agences, ce sera comme si on réglementait l'industrie pharmaceutique en donnant l'autorisation entreprise pharmaceutique par entreprise pharmaceutique, en disant Merck est bon, Merck peut fabriquer n'importe quel médicament. C'est absurde. Merck fait des bons médicaments et des mauvais médicaments. Standard & Poor's fait des bonnes notes et fait aussi des mauvaises notes.
Le moteur des marchés, c'est le psychodrame. Jérôme Cazes, on marque une pause, on se retrouve juste après les infos. Retour dans 12-15 avec mon invité Jérôme Cazes. Vous disiez à l'instant, Jérôme Cazes, il faut... noter, être les notateurs de notateurs. C'est-à-dire que S&P peut être très très mauvais sur les risques bancaires, mais être excellent sur les risques pays ou l'inverse. Et donc en fait, c'est stupide de dire ils sont formidables, donc quoi qu'ils disent, c'est parole d'évangile. Comment faire pour changer ça?
Ben, il faut changer la réglementation. Là où les agences ont raison, c'est en disant, écoutez, si on a pris un tel pouvoir, c'est parce que vous, les politiques, vous nous avez laissé le prendre. Que vous avez été gravé dans le marbre, dans toutes les lois, que pour bien noter ces crédits, il faut s'appuyer sur les agences. Donc je pense que les autorités politiques doivent balayer devant leur porte. Je crois que Monsieur Barnier a dit qu'il voulait le faire. Combien d'années ça va prendre? Et on sait qu'il y a des forces énormes qui bloquent tout ceci. Donc... à la fin des fins, je reviens sur l'idée que dans une démocratie, quand les 99% pensent que quelque chose ne va pas, on doit pouvoir corriger les choses.
Oui, on doit pouvoir corriger les choses, mais encore une fois, alors je ne sais pas, puisque vous, justement vous êtes en train de réfléchir à ça, que vous avez des pistes, des solutions.
Oui, moi j'ai des solutions, c'est ce que j'explique dans mon roman. Je pense que tout ça est devenu beaucoup trop compliqué. On n'y comprend rien. On nous dit, vous en occupez pas parce que c'est trop compliqué. Mais en fait, plus personne n'y comprend rien. Quand vous êtes à l'intérieur d'une banque, vous voyez que personne ne sait plus comment ça marche. Donc, il faut simplifier. Et donc, il y a un certain nombre de mesures de simplification très simples à mettre en place, qui sont premièrement que les banques universelles, c'est-à-dire celles qui peuvent spéculer avec vos dépôts, votre argent, il faut les interdire. Deuxième élément, c'est pas parce que les patrons de banque, certains patrons de banque, aiment bien grossir et racheter d'autres banques qu'il faut les autoriser. Une grosse banque fait des grosses bêtises et quand elle meurt, elle fait d'énormes catastrophes. Il faut limiter la taille des banques. Et le dernier élément, c'est les produits, les marchés financiers. C'est pas parce qu'une banque a envie de lancer un produit financier qu'il faut le faire. Il faut contrôler les effets négatifs des produits financiers comme on contrôle les effets négatifs des médicaments. Si on faisait ces trois choses, eh ben on se tournerait extrêmement différemment.
Toute dernière question avant de revenir dans... Sur votre roman, il n'y a pas que les agences de notation, hein, il y a aussi des jolies formes et des tas de choses. Hein, quand
oui,
même, hein.
Oui.
Juste, les triple A, bientôt, si la France est dégradée, peut-être pas l'Allemagne, mais il n'y aura plus que des paradis fiscaux hein, qui seront triple A. Est-ce que ce n'est pas un peu bizarre?
Oui, mais enfin, les paradis fiscaux, elles n'émettent pas beaucoup de devises, oui. Donc de crédit. Donc à la fin, qu'est-ce que ça voudra dire pour les investisseurs?
Rien.
C'est qu'ils noteront sur un cran de moins. Ils sauront que les très très bons sont 2A+. Tout ça, c'est dans notre tête que ça se passe. À un moment donné, on avait dit, souvenons-nous, il y a 3 ans, qui savait ce qu'est un triple A? On a appris maintenant que c'était très très bon. Ben, demain, ce sera le AA+. On sait que tel prof, il met jamais plus de 16. Quand on a 15 avec lui, on est vachement fortiche. Bon. Puis il y en a un autre qui met 19. Ben là, on saura que maintenant, pour être très très bon, il faut 2A+.
Alors pourquoi l'envie tout d'un coup d'écrire un thriller? Parce qu'en plus, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est au jour le jour, hein, ça porte sur combien de jours?
Ça porte sur une quarantaine de jours, ça décrit une horrible crise pendant 40 jours.
Voilà, alors c'est l'horrible crise, vous avez vécu la première.
Oui.
Vous avez écrit.
J'étais très frustré de la façon dont elle a été gérée.
Voilà, et là vous avez écrit ça avant même cette crise qu'on connaît aujourd'hui, parce que j'ai le livre maintenant devant moi, Jérôme Caz. Donc ça veut quand même dire que, en plus vous prévoyez une troisième, une quatrième crise, c'est un peu comme un...
Le système est bâti pour créer des crises. En gros, quand vous mettez les plus brillants de chaque génération devant des écrans et que vous leur dites « mon fils spécule » et qui gagne le jackpot quand ça monte et que ça descend, il n'y a pas à s'étonner que ça monte et que ça descend. Donc tant qu'on aura les mêmes règles, il se passera les mêmes choses. Mais je me suis dit que si je faisais un essai là-dessus, personne ne le lirait. Donc j'ai dit, je vais faire un roman
avec un thriller,
avec des vrais personnages.
C'est Wall Street vu des agences de notation.
Voilà, c'est surtout Paris. C'est les petits cercles de la haute finance parisienne avec leurs rites, les cérémonies de décoration à l'Élysée, les loges au Stade de France, les loges à Roland-Garros. Donc tous les petits rites de ce tout petit monde, et puis des gens qui se dressent en face et qui disent « pousse, ça suffit ». Ça, c'est la partie optimiste, c'est de montrer qu'il y a peut-être un moyen d'arrêter tout ça. Et donc j'ai pensé qu'avec un roman, un, ce serait plus lu, et deux, si comme c'est le cas pour 555, il est gratuitement sur Internet, puisqu'on peut aller sur le site et le télécharger gratuitement, et bien peut-être qu'on fera naître un buzz qui, peu à peu, fera bouger la finance spéculative.
Pourquoi 555?
Ah ben ça, il faut le lire. C'est tout à fait à la fin.
Moi, je peux donner la réponse, mais il faut que vous le disiez.
Je veux que les lecteurs le découvrent. Ouais. 555, je peux dire que ça a un rapport avec la Chine, parce que la Chine joue un grand rôle dans l'histoire. Et que si certains auditeurs de BFM parlent chinois, ils ont une chance de trouver. S'ils parlent pas chinois, ils auront du mal.
Quand on écrit un roman comme ça, c'est parce que c'est pas un roman autobiographique ou ça l'est quand même quelque part un petit peu.
C'est difficile d'écrire un roman sans être un peu autobiographique, parce que ce que vous mettez dans un roman, même si vous en rendez pas toujours compte, c'est vous. Donc il est quand même assez autobiographique. Mais à la fin des fins, je crois qu'il va un peu plus loin que ma toute petite personne. Et il essaie, je pense, d'ouvrir une envie de faire chez le lecteur, une envie d'agir chez le lecteur.
Est-ce que c'est un mouvement d'indignation de votre part, Jérôme Caz, vous qui avez participé au système, qui fait partie du système, hein?
Oui, c'est un mouvement d'indignation. Je me suis dit, voilà, j'ai du temps, je suis plus redevable pour l'instant, en tout cas, de quoi que ce soit, d'une institution, ma parole est libre.
Ouais.
Je ne peux pas me regarder dans la glace si je laisse faire... Ça servira peut-être à rien. Mais je me dis, si ceux qui savent que le roi est nu, que même ceux qui sont censés piloter n'y comprennent rien, même si ceux-là ne disent rien, alors on est fichu. Donc je pense que si un certain nombre de gens qui pensent tout bas ce que j'écris dans mon livre se dressaient et disaient « pousse », il n'y a pas que les débiles qui pensent qu'il faut arrêter. Il y a aussi des spécialistes qui pensent qu'il faut arrêter. Eh bien, je pense que ça s'arrêterait.
Et on peut retrouver ça sur votre site internet.
Alors le site internet, oui, c'est www.555jeudirouge.fr.
Pourquoi jeudi rouge?
Jeudi rouge parce que vous connaissez les jeudis noirs. Je vous le dis. Edwige, c'est il y a les jeudis noirs, les mardis noirs, etc. Et là, comme la Chine joue un grand rôle, il y a une brillante journaliste qui a l'idée d'appeler ça des mardis rouges ou des jeudis rouges pour montrer en gros l'origine chinoise de cette crise que je décris dans mon livre.
Voilà, merci beaucoup Jérôme Caz. Avec le moteur des marchés, c'est le psychodrame. C'est pour ça qu'il faut arrêter ça et puis tout est dans nos têtes, on a bien compris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup Edwige Chevrillon.